France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'un des cancers les plus difficiles à soigner, le cancer du pancréas, des chercheurs espagnols parviennent à le faire reculer chez les rongeurs. Espoir des malades, nous verrons ce qu'en disent les médecins français. À suivre encore, l'Iran, son président demande l'ouverture de négociations sur le nucléaire avec les États-Unis. Nous écouterons des Iraniens qui fuient leur pays. Les Américains qui publient le dossier judiciaire du prédateur sexuel Jeffrey Epstein, des centaines de personnalités citées, dont des Françaises, certaines pour un simple échange de mails. Nous verrons cela. À partir de 13h30, nous parlons du système énergétique ukrainien. Il est au bord de l'effondrement alors que le pays fait face à un froid polaire. Nous serons avec François Grunewald, le président du comité d'aide médicale Ukraine. Il vient d'arriver sur place. 01 45 24 7000 pour vos questions. Nous irons également dans le 15e arrondissement de Marseille, capitale du fast-food, et à Biscarrosse, dans les Landes. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Les dernières tempêtes ont fait des dégâts.
50 mètres de promenade engloutis ce week-end, un hôtel évacué. Biscarrosse est l'une des communes de France les plus menacées par l'érosion.
A tout de suite pour vos précisions. 13h45, notre feuilleton avec un chercheur qui est devenu éleveur.
Les vaches mettent bas à l'automne, là elles sont en pleine production. On fait presque 500 litres le matin avec 35 vaches. Cet hiver, elles ont des bons fourrages, donc ça fait beaucoup de lait.
Le retour à la ferme, ça se passe dans le Rhône. 13h50, c'est la France. Lons-le-Saunier dans le Jura dit son attachement à ses commerçants en affichant leurs photos. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Semaine olympique avant le début des Jeux d'hiver. La boxeuse Estelle Mosley avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
16 000 nouveaux cas de cancer du pancréas sont diagnostiqués chaque année en France et avec des chances de s'en sortir qui restent faibles puisque le taux de survie à 5 ans après le diagnostic reste inférieur à 10%. Or, après des années d'échecs, la recherche vient enfin de progresser. Ça se passe en Espagne. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
Spécialiste santé de la rédaction de France Inter. Des chercheurs sont parvenus à faire régresser les tumeurs chez les rongeurs.
Oui, on sait que 90% des patients touchés par le cancer du pancréas ont une mutation au niveau d'un gène connu sous le nom de CARAS. C'est lui qui est responsable de la prolifération des cellules cancéreuses. Les chercheurs espagnols ont donc tenté une triple combinaison, une trithérapie pour bloquer l'action de CARAS. Les résultats sont très intéressants. Ils ont réussi non seulement à faire régresser ou disparaître les tumeurs dans leurs expériences chez la souris, mais aussi à prévenir le phénomène de résistance auquel se heurtent les médecins depuis des décennies. Aucune reprise des tumeurs n'a été observée pendant plus de 200 jours après le traitement.
Alors, ces chercheurs ont publié leurs travaux il y a quelques jours. Les médecins français ont eu le temps de s'y intéresser. Qu'en disent-ils ? Est-ce que c'est vraiment une avancée ?
Oui, cette étude est vraiment très commentée dans le milieu de la cancérologie. C'est une avancée, estime Michel Ducreux, chef du service d'oncologie digestive à Gustave Roussy, même si la prudence reste de mise.
Tout ça est porteur d'espoir, ne serait-ce que parce que, par exemple, le gène CARAS dont on parlait est un gène qui était pour l'instant considéré comme absolument impossible à bloquer. Et on sait maintenant qu'on a des médicaments qui vont pouvoir le bloquer. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça constitue pour l'instant une étude qui est uniquement faite chez la souris. Et on sait très bien qu'entre le moment où des thérapies sont éventuellement actives chez la souris et le moment où ça peut être applicable chez l'homme, il se passe plusieurs années, d'une part. Et d'autre part, il y a beaucoup d'échecs ensuite quand on passe chez l'homme.
Dans les essais cliniques chez l'homme, il faudra notamment vérifier que cette triple combinaison de médicaments n'est pas trop toxique pour l'homme ou qu'elle n'est pas toujours efficace, et qu'elle est toujours efficace, pardon, aux doses supportables par les patients.
Explication Victor Delande. Là aussi, les questions de santé. Avec le boom des enseignes de fast-food dans notre pays, l'URSSAF, qui collecte notamment les cotisations sociales des entreprises, l'URSSAF a fait ses comptes. La France compte 51 000 établissements de restauration rapide. Il n'y en avait que 40 000 en 2019. Et je vous emmène maintenant dans l'un des deux endroits de France où il prolifère le plus. C'est le 15e arrondissement de Marseille, les quartiers nord de la ville. 75% des restaurants y sont des fast-food. Laurent Grollet s'est rendu sur place.
Les fast-food, c'est devenu un réflexe chez Aaron et Salim.
Pas deux, trois fois par semaine.
Tous les midis et trois soirs par semaine.
Avec un péché mignon pour Salim.
Là, moi, c'est les tacos.
Tu peux en manger combien de tacos ?
Par jour ?
Ouais.
Deux, trois. Non, moi je dis, on peut manger des fast-foods, ça dérange pas tant qu'on fait du sport à côté et qu'on s'entretient bien, ça dérange pas.
À deux pas de la 7, avenue de Saint-Antoine, le paradis de la restauration rapide.
Pizza, ouais.
Bol.
Pokéball.
Non, bol. C'est un tacos sous forme d'assiette.
Attaché rôti, c'est du riz avec des tenders. Voilà, c'est un repas simple en vrai. Mais ça va, c'est bon.
En revanche, ne cherchez pas dans l'assiette d'Atoumani la moindre feuille de salade.
Moi, principalement, je mets que de la viande.
Pas de salade. C'est pas bon la salade ?
Si, c'est bon, mais je vais au snack, je peux prendre de la salade.
Devant le bar PMU, Gérard fulmine.
À mon époque, avant, il n'y avait pas un.
Où sont les restaurants d'antan, s'indigne cet ancien du quartier.
Mes parents, mes grands-parents, ils habitaient là. On avait des boucheries, il n'y a plus rien pour nous. Ça me dégoûte.
Un choix de restauration désormais réduit pour Gérard dans ce 15e arrondissement de Marseille où plus de 7 restaurants sur 10 sont des fast-food.
Reportage ici Provence, au nord de Nantes la nuit dernière. 3 policiers blessés lors d'un refus d'obtempérer. Ils prenaient en chasse une voiture avec une fausse plaque d'immatriculation et qui roulait trop vite. Ce véhicule a fait demi-tour et est venu percuter la voiture de police. Le suspect a été interpellé. Délit de fuite également à Meaux en Seine-et-Marne, à l'origine de la blessure de 3 policiers de la BAC, brigade anticriminalité, hier soir. Et puis ce matin, plusieurs centaines d'agents du service des transports publics du Mans dans la Sarthe. Ce matin, donc, ces agents manifestent devant la préfecture du département, bus et tramway de la ville à l'arrêt. Ils protestent contre l'agression de 2 agents par des lycéens. C'était il y a 3 semaines. Dans l'actualité de ce lundi également, la situation en Iran. L'Iran toujours sous la pression militaire américaine. Les autorités ont annoncé ce matin l'arrestation de 4 étrangers pour avoir, selon elle, participer aux émeutes. Autre arrestation, c'était samedi, celle de Mehdi Mamounian, connu pour avoir coécrit le dernier film de Jafar Panahi, Palme d'Or au Festival de Cannes l'an dernier. Déjà emprisonné par le passé, Mamounian venait de signer un texte condamnant la répression. Philippe Martin dirige la société qui a produit le film, les films Péléas.
Le drame de ce qui se passe en Iran ne s'arrête pas, en fait. Mehdi Mamounian, c'est un activiste important. C'est quelqu'un qui a pris des positions toujours très critiques contre le régime et qui a quand même fait pas loin de 10 ans de prison. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais rendu à l'autorité de ce régime et aujourd'hui encore moins qu'hier. Donc, ils finissent par être arrêtés. C'est malheureusement une chose qu'on pouvait imaginer. Pas notre grande surprise. Jusqu'à maintenant, l'équipe du film était plutôt protégée. Quand Jafar Panahi est rentré en Iran, il n'a pas eu de problème. Ses acteurs n'ont pas eu de problème. Et puis, en fait, je pense que la prise de position qu'a pris Mehdi Mamounian en co-signant avec Jafar et d'autres personnes une lettre qui était vraiment une dénonciation et une accusation de la responsabilité de Rami dans tout ce qui vient de se passer, ça a sûrement été la chose de trop et que voilà, la masse se resserre un peu quand même, hein, de plus en plus autour des artistes et autour de toutes les personnes qui contestent.
Philippe Martin au téléphone d'Alexis de Meyer. Cette répression conduit nombre d'Iraniens à prendre la route de l'exil, en tout cas ceux qui en ont les moyens. Notre correspondante en Turquie, Marie-Pierre Véraud, a rencontré un couple juste après son passage de la frontière entre l'Iran et la Turquie. Ils rêvent maintenant de rejoindre l'Australie.
Ils ont pris quelques valises. Ils attendent une voiture de ce côté-ci de la frontière pour les emmener vers une nouvelle vie. Ce sera l'Australie, Melbourne. Ils souhaitent qu'on les appelle Mohamed et Freshte.
Before start this trip, remove all the applications, social media.
Avant de partir, j'ai retiré toutes mes applications, les réseaux sociaux, les nouvelles. Au cas où nous aurions des problèmes durant le voyage, je ne peux pas vous montrer de vidéo, mais ce n'est pas bon pour nous, pas bon du tout.
I can't show you this video and it's not good for us. It's not good.
Il parle aussi de l'odeur de la poudre partout, de ces tirs incessants, des jeunes tués. Ce sont surtout des jeunes, soupire Mohamed. Ils espéraient un changement de régime, mais n'y croient plus.
Vous savez, chaque gouvernement pense à ses intérêts et après peut-être pense au peuple iranien. Ces jours-ci, les gens n'espèrent plus rien. La semaine dernière, on espérait encore de l'aide d'un autre pays, particulièrement de Trump. Mais ces jours-ci, on n'y croit plus. Parce que vous savez, Trump, il parle beaucoup, mais il ne fait rien.
Ils reviendront, c'est sûr, si les mollahs tombent. Mais ils n'ont plus le temps d'attendre. Ils veulent, disent-ils, vivre tout simplement.
Reportage de Marie-Pierre Véraud et donc il y a quelques minutes, le président iranien Massoud Pezeshkian qui demande l'ouverture de pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. L'affaiblissement de l'Iran dans la région laisse le champ libre à Israël. Israël qui accepte aujourd'hui de rouvrir dans les deux sens le point de passage de Rafah. C'est au sud de la bande de Gaza. C'est le seul endroit qui permet de sortir de l'enclave et de rejoindre l'Égypte et il est fermé depuis mai 2024. Mais pour l'instant, cette réouverture réclamée par l'ONU est très limitée. 50 blessés et deux de leurs accompagnants vont pouvoir sortir. Dans l'autre sens, 50 exilés doivent pouvoir revenir. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant en direct de Jérusalem. C'est une décision qui reste, Thibault, très symbolique.
Oui, parce que c'est très simple et vous allez le voir, très arithmétique. 22 000 Palestiniens sont malades ou blessés. Ils doivent être évacués pour être soignés selon les autorités locales. Et à ce rythme-là, et à condition que les Égyptiens les acceptent tous, il faudra un an et demi pour les sortir de Gaza. Selon la même source, 80 000 Palestiniens ont fui l'enclave pour le Caire pendant la guerre, payant pour certains des sommes exorbitantes avec 50 rapatriements quotidiens. Les derniers attendront plus de 4 ans pour retrouver leur proche. La réouverture de Rafah est donc, vous l'avez dit, avant tout symbolique. Je vous propose d'écouter le témoignage que la journaliste Salma Kadoumi vient de m'envoyer. Elle attend depuis des mois de pouvoir évacuer son frère, gravement blessé dans un bombardement.
La réouverture du poste frontière de Gaza, c'est uniquement pour les médias. Le nombre de personnes concernées est très faible. C'est juste pour le spectacle. Les gens ici sont pessimistes. Ça n'a pas de sens d'ouvrir de cette façon-là les portes de l'enclave.
Rafah doit ouvrir tous les jours pendant 6 heures et permettre donc à la fois des rapatriements et des évacuations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Israéliens qui contrôlent totalement l'opération ont, sous contrainte américaine, accepté, après 4 mois de tergiversation, de respecter à minima leurs engagements pour la première phase du plan de paix.
Précision signée Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Dans la Syrie voisine, l'accord entre le pouvoir de l'ex-djihadiste Al-Sharrah et les Kurdes, cet accord entre en vigueur aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement de Damas prend par exemple le contrôle des camps et des prisons dans lesquels les Kurdes détenaient les anciens membres de l'organisation État islamique. Et il y a quelques jours, 126 mineurs ont été libérés de l'une d'entre elles, à Raqqa, l'ancienne capitale de Daesh. Notre journaliste Manon Chaplin a pu rencontrer l'un d'entre eux. Il nie avoir appartenu à l'État islamique et dénonce aujourd'hui de mauvais traitements.
Fébrile Ahmad, 17 ans, s'avance aux côtés de son père, qu'il n'avait pas vu depuis 3 mois. Doucement, il raconte son arrestation, un soir en pleine nuit chez lui, les accusations, une simple bagarre, assure-t-il, puis un refus d'obtempérer, cette prison pour mineurs dans laquelle il a d'abord été envoyé.
On m'a accroché au plafond avec des épingles en acier, puis on m'a beaucoup frappé.
Très vite, Ahmad est envoyé dans la prison d'Al-Aqtan, connue pour renfermer des membres présumés de l'organisation État islamique.
Ils nous ont rasé le crâne. Nous étions 33 dans une cellule de 20 mètres carrés.
Autour de lui, continue-t-il, des mineurs, des enfants, parfois d'à peine 8 ans.
On avait interdiction de parler après le coucher du soleil, sinon on était emmenés dans des cellules individuelles.
De ses doigts rougis, Ahmad effleure sa joue, marquée par 2 brûlures de cigarettes.
Regardez ce qu'ils ont fait.
Quelques jours avant sa libération, Al-Aqtan a été le théâtre de négociations. Les forces démocratiques syriennes ont accepté de se retirer contre une évacuation de leurs combattants vers Kobané.
Les 5 derniers jours, ils ne nous donnaient plus que de l'eau avec du sel. Lorsqu'on criait qu'on avait faim, ils nous tiraient dessus.
Finalement, Ahmad sortira avec d'autres mineurs lors d'un premier convoi. Il dit ne toujours pas réaliser ce qui lui est arrivé. « Je sens que je suis plongé dans un mauvais rêve », répète-t-il. « Un rêve qui me tord le ventre et se rejoue infiniment dans ma tête. » De retour de Raqqa, Manon Chaplin pour France Inter.
Aux États-Unis, c'était une promesse de campagne de Donald Trump publiée. Les archives de la justice sur le prédateur sexuel Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019 avant son jugement et accusé d'avoir monté un vaste réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Les voilà donc, ces documents publiés vendredi. 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 photos et des noms de personnalités qui ont à un moment donné été en contact avec Epstein, sans que cela signifie, et il faut le souligner d'entrée, qu'elle soit liée à ses activités. Bonjour Sébastien Legénie.
Bonjour.
Vous êtes penché sur ces listes de noms. Il y a plusieurs personnalités internationales.
Et la plus inattendue, c'est la princesse Mette Marit, la future reine de Norvège, qui apparaît au moins un millier de fois, notamment dans des emails embarrassants en 2012, alors que le riche financier est de passage à Paris. Elle lui écrit que la capitale française est bien pour l'adultère. Autre personnalité éclaboussée, l'actuel président du comité des JO de Los Angeles, Kaizé Wasserman, qui admet avoir eu des échanges par mail, là aussi très graveleux, avec Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, actuellement en prison. On peut citer aussi un conseiller de l'actuel premier ministre slovaque, Robert Fico, Miroslav Lajčák, et ses textos en 2012 avec Epstein, dans lesquels ce dernier lui promettait des femmes. Il a depuis démissionné. Ajoutons enfin de nouveaux documents accablants pour l'ex-prince Andrew. Une photo le montre à quatre pattes au-dessus d'une femme habillée, allongée au sol.
Il y a aussi dans ces documents des noms de personnalités françaises
qui entretenaient des relations personnelles avec le criminel. Apparaît le nom de Jack Lang, qui sollicite à plusieurs reprises des faveurs matérielles à Epstein, comme sa voiture ou son avion. L'ancien ministre des Finances, Bruno Le Maire, semble avoir rendu visite aux financiers chez lui à New York. Enfin, Epstein est entré en contact par email avec le mathématicien Cédric Villani. Des documents qui, comme vous le disiez, n'établissent en rien une forme de culpabilité.
Qu'est-ce que ça nous dit au fond, Sébastien Legénie, que cette avalanche de noms?
Au final, plus de confusion que d'éclaircissement, le FBI n'a fait aucun tri en amont. Et à ce stade, le ministère de la Justice américain affirme n'ouvrir aucune nouvelle enquête.
Sébastien Legénie pour ses précisions.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
L'argent public alloué à l'audiovisuel, Radio France, France Télévisions par exemple, ces fonds sont-ils bien utilisés? Le travail de ces groupes est-il impartial? Voilà les questions que se pose depuis l'automne la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Et après de fortes tensions entre son rapporteur qui appartient au parti d'Éric Ciotti et son président qui lui est membre du parti d'Édouard Philippe, bref, après ces tensions, la commission a repris ses travaux et elle entend aujourd'hui deux visages de l'information. Formation de France Télévisions, les présentateurs du 20h de France 2, Léa Salamé et Laurent Delahousse. Bonjour Alexandra Hakoun.
Bonjour.
Vous suivez ces auditions. C'est Léa Salamé qui a ouvert le bal ce matin.
Oui, une audition qui a duré plus de 2h30 dans une ambiance plutôt apaisée. Le rapporteur de la commission, l'UDR Charles Laloncle, a attaqué sur la différence de moyens entre TF1 et France Télévisions sur l'information, reprochant à Léa Salamé des chiffres d'audience inférieurs à TF1. Il faut du temps pour s'installer. Installé, lui a répondu la présentatrice. Puis très vite, on est arrivé à son compagnon, Raphaël Glucksmann. Comment, vivant avec un député européen qui sera peut-être candidat à la présidentielle, Léa Salamé peut-elle assurer de son impartialité? Réponse, on ne peut plus claire de l'intéressé.
Pensez-vous vraiment qu'en 2026, une femme pense forcément comme son mari? Vous pensez sérieusement qu'on en est là, à ce stade, sauf si vous avez l'un ou l'autre des informations que j'ai pas, il n'est pas candidat. Ça vous fait marrer, mais il n'est pas candidat. Et je ne suis pas une femme sous influence. Si un jour, dans 6 mois, dans 1 an, il se décide à être candidat, je quitte le 20h. Immédiatement.
Mais si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, embraye Charles Laloncle, vous pensez que vous auriez le droit de présenter le journal? Et votre rémunération aux 20h, peut-on la connaître? Pourquoi ne pas avoir abandonné la présentation de quelle époque?
Vous avez tous les chiffres, monsieur Laloncle. En ce qui me concerne, vous savez exactement les choses. Par ailleurs, j'étais productrice de cette émission avant d'être salariée de France Télévisions. Il n'y avait aucune raison avec les chiffres qu'on fait sur quelle époque. Donc je ne me voyais pas arrêter.
Puis c'est sur l'éditorial que le rapporteur a tenté de la coincer sans succès. Souriante et détendue, Léa Salamé a terminé en expliquant que le service public, elle s'y sent bien, n'excluant pas un jour de rejoindre le privé. Mais pour le moment, j'y suis heureuse, a-t-elle conclu.
Et Laurent Delahousse, lui, sera entendu en début d'après-midi. Merci Alexandra Hakoun. Vous nous parliez, Alexandra, de l'UDR. C'est le parti allié du Rassemblement National et il vient de gagner un député. Antoine Valentin, vainqueur hier d'une élection législative partielle en Haute-Savoie, face au candidat soutenu par le parti Les Républicains. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Ce qui est intéressant, c'est le profil de ce député d'extrême droite, jeune, 33 ans, et qui œuvre au rapprochement entre droite et extrême droite partout en France.
Oui, Antoine Valentin, qui était jusqu'ici maire de Saint-Jouard, commune de 3500 habitants en Haute-Savoie. Un enfant du village, comme le vante la page web de sa mairie, lui exalte très volontiers son image d'élu rural, qui compense les défaillances de l'État, dit-il sur les plateaux de CNews, dont il est un invité régulier. Car Antoine Valentin est aussi un professionnel de la politique, qui depuis plus de 10 ans milite à droite et à l'extrême droite, sautille de chapelle en chapelle, d'abord chez Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, puis chez LR, avant de soutenir la candidature d'Éric Zemmour en 2022. Une errance qui s'achève donc chez UDR, le parti d'Éric Ciotti qu'il a fait élire député. Professionnel de la politique aussi, car il a cofondé une formation baptisée Politicae, visant à aider des candidats à se faire élire maire. Institut directement financé par Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire qui met son argent au service de l'Union des droites. En Haute-Savoie, Antoine Valentin a largement fait campagne sur le thème de l'insécurité et après sa victoire, il entend incarner le remplacement de la droite traditionnelle par le RN et ses alliés.
Explication et portrait signé Marie Mollet. Peu de monde parmi les députés depuis vendredi pour reprendre à son compte l'explosive proposition du MEDEF. Les grandes entreprises qui propose de créer un CDI jeune, mais un contrat qui pourrait être résilié par l'employeur sans aucun motif et qui pourrait être payé en dessous du SMIC. C'est une déclaration de guerre contre les jeunes et contre les salariés, a réagi ce matin la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Mais si le MEDEF ouvre le débat, c'est qu'il y a un sujet de fond. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Le sujet, c'est le chômage des jeunes, leur difficulté à accéder à un premier emploi.
Et là, il y a consensus. Patronat et syndicats ne peuvent que constater, chiffres à l'appui, la difficile entrée des jeunes sur le marché du travail, quelle que soit leur situation. D'abord, l'exemple des jeunes qui arrêtent leurs études à 18 ans. Eh bien, deux ans après, la moitié seulement travaille, contre 80% en Allemagne, 65% en Grande-Bretagne. Pour les Bac plus 5, on a longtemps dit qu'ils étaient mieux lotis, c'est vrai, mais leur situation se détériore. Selon les chiffres de l'APEC, en 2024, un an après l'obtention de leur diplôme, 72% avaient trouvé un poste. C'est 2 points de moins que la promo précédente. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les NEETs, les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Ils représentent 12,8% des 15-29 ans, soit plus d'un jeune sur 8 et près d'un jeune sur 3 dans les quartiers prioritaires de la ville.
Il y a quand même eu des tentatives pour régler ce problème ces dernières années, Agnès Soubiran. Elles n'ont pas fonctionné ?
Si, mais pas suffisamment. L'apprentissage, boosté par des aides publiques, ont compté plus d'un million d'apprentis en 2024, mais les modalités ont changé. Résultat, une baisse de près de 5% du nombre de nouveaux contrats signés en 2025. Autre dispositif, un jeune, un emploi, lancé en juillet 2020 pour aider les 16-25 ans à la sortie du Covid. Puis il y a eu la garantie jeune, suivie du contrat d'engagement jeune. 700 000 filles et garçons en ont bénéficié. L'Institut des politiques publiques note une légère amélioration de l'efficacité de ces dispositifs. Reste qu'il est difficile de décorréler l'emploi des jeunes avec les problématiques de logement et de santé mentale. Des jeunes plus fragiles et plus éloignés de l'emploi qui passent encore sous les radars.
Je reviens à la proposition du MEDEF, ce CDI jeune. Est-ce qu'on sait ce qu'en pense le gouvernement ?
Pas grand-chose visiblement. En tout cas, n'a pas très envie de se saisir du sujet. Du côté de Matignon, on estime que le MEDEF devrait aller proposer aux candidats à la présidentielle toutes ces initiatives. La priorité du Premier ministre, on le rappelle, ce sont les négociations sur les ruptures conventionnelles dont le nombre a beaucoup augmenté. Du côté de Bercy aussi, beaucoup de prudence. On n'a pas très envie de voir des centaines de milliers de jeunes dans les rues.
Merci Agnès Soubiran pour ces informations. Le budget de l'État pour 2026 devrait être définitivement adopté ce soir avec plus d'un mois de retard. Le gouvernement a eu recours à l'article 49.3 pour cela, mais les deux motions de censure déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National devraient être rejetées en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale. Entre autres mesures, ce budget prévoit la fermeture d'ici le mois de mars de l'Institut national de la consommation. Cet institut qui édite depuis 1970 le magazine 60 millions de consommateurs. Bonjour Lionel Mauguin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et représentant du personnel à 60 millions de consommateurs. Vous manifestez en ce moment dans les rues de Paris. Votre magazine va disparaître, Lionel Mauguin ?
Oui, oui, malheureusement, on est victime de ce budget. On a appris que le gouvernement Le Cornu voulait liquider l'INC et donc son magazine 60 millions de consommateurs dans un article du Canard Enchaîné en octobre. Et on n'a pas réussi à convaincre le gouvernement de de ne pas nous liquider. Donc aujourd'hui, c'est officiellement, après les motions de censure, ce sera la fin de l'Institut national de la consommation et de son magazine 60 millions de consommateurs, et aussi de l'émission Consomag, qui est diffusée sur les services de l'audiovisuel public.
Ça veut dire la fin de vos enquêtes?
Et oui, puis la dernière en date, c'est quand même les poupées pédocriminelles de Shein. Donc on est bien sûr, notre métier consiste à faire des comparatifs de produits, de services, mais aussi à lancer des alertes, effectivement, des alertes alimentaires, le dioxyde de titane récemment, l'hexane, et donc 60 millions de consommateurs est publié par un établissement public. Et sous prétexte de faire des économies, on liquide le lanceur d'alerte et son magazine que tous les Français connaissent et apprécient.
80 000 abonnés, 20 à 30 000 exemplaires vendus en kiosque, mais plus de 700 000 euros de déficit en 2024, dit aussi le gouvernement.
Oui, c'est quand même pas nous qui ruinons les finances de la France avec 700 000. Et je peux vous dire qu'en 2025, les comptes seront à l'équilibre. Donc le motif budgétaire est pas démontré par rapport à tout ce qu'on apporte au débat public et aux Français. Hein. On répond régulièrement aux journalistes. On ne vend pas forcément l'information, on la diffuse. On a une mission d'intérêt général qui a été décidée il y a plusieurs décennies et qui est toujours pertinente aujourd'hui. Et personne ne comprend pourquoi le gouvernement a décidé de liquider l'INC et son magazine.
Merci Lionel Mauguin d'avoir été avec nous en direct dans ce 13-14, journaliste représentant du personnel à 60 millions de consommateurs, magazine qui va vraisemblablement disparaître. À Biscarrosse dans les Landes, Biscarrosse Place. C'est donc un nouveau signe des dégâts de l'érosion et de l'impact des tempêtes hivernales. Les fortes vagues de ces derniers jours ont eu raison d'une partie de la promenade qui longe l'océan Atlantique. 50 mètres se sont effondrés. Béatrice Duguay, on vous retrouve. Et un hôtel a dû être évacué.
Oui, après une marée très haute, vous le disiez, des vagues très fortes, des conditions météo défavorables. Romane, qui tient une maison d'hôte, vous fait la photo de la plage ce matin.
Les vagues étaient très, montées très haut. En fait, on n'a plus de chemin d'accès au niveau de la plage sud. La promenade est tombée, elle est inaccessible. Là, ils ont mis des barrières un peu partout. Après, nous, au niveau de la sud, du coup, on a, si vous voulez, une descente de sable qui mène à la plage et qui n'existe plus là depuis quelques jours. Du coup, les plages sont vraiment raccourcies. C'est assez violent. Là.
L'hôtel de la plage a dû être effectivement évacué vendredi au grand dam de son gérant. Il est quasiment sur la plage, à côté des villages jumelles qui sont très connus, très menacés, elles, parce qu'au bord du précipice, l'hôtel n'a pas bougé ce week-end. Il peut réouvrir ce midi, mais après un week-end épique pour Alexandre Michel.
Il y avait une trentaine de réservations à annuler. Et donc, il faut appeler tout le monde, il faut les soit reporter, les rembourser s'ils ont versé des acomptes ou des arts. Enfin voilà, ça a été un travail quand même assez important. Oui, ça se fait pas en deux, non.
À Biscarrosse Plage, le trait de côte recule inexorablement, parfois de 25 mètres par an. Et malgré des réensablements réguliers, s'inquiète Romane.
D'hiver en hiver, je trouve ça plus violent et plus marqué. C'est un phénomène qui est assez répétitif. On constate qu'il y a un réensablement de la dune, qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour préserver le trait de côte actuel. Malheureusement, c'est la nature qui reprend un peu ses droits.
Voilà, c'est alarmant. Conclut-elle.
Merci Béatrice Duguay. Le menu météo de ce lundi, c'est un fort coup de vent dans le sud et de fortes précipitations aussi. On vous détaille tout cela dans une minute, juste après avoir parlé du téléachat. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour.
Vous étiez un fidèle du téléachat à la télévision. Maintenant vous êtes orphelin, il n'y en a plus à la télévision. Maintenant ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous nous racontez, principalement TikTok Shop qui a été lancé au mois d'avril. Et maintenant c'est le géant de e-commerce eBay qui vient de lancer sa propre chaîne la semaine dernière avec sa fonctionnalité de live shopping. Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, c'est vraiment, il faut le dire, à partir du Covid que cette pratique née en Asie s'est installée chez nous. L'idée générale, c'est de faire la promotion d'un produit en direct et qu'on puisse ensuite l'acheter très facilement. Exemple avec cette jeune femme en direct depuis plusieurs heures et qui vendait il y a quelques minutes encore des vestes sur TikTok.
Pour la veste en cuir, non ma belle, pour commander, t'as juste à aller. Alors regarde, tu vas sur le petit panier orange, t'appuies dessus, c'est le modèle 4, donc tu appuies sur acheter, tu choisis la couleur et tu payes, c'est très très simple.
Voilà, c'est très très simple, Jérôme. Un mode de vente bien connu des plus jeunes, qui ressemble donc à un téléachat interactif, même si le dispositif est souvent bien plus rudimentaire que les émissions qu'on a connues. L'enjeu n'en est pas moins important. En Chine, les ventes issues de ces vidéos en direct représentent 20% du chiffre d'affaires du commerce en ligne. On en est encore loin chez nous, mais ce secteur est en pleine croissance, avec notamment l'application américaine Whatnot de plus en plus présente. eBay a fait le choix de créer une plateforme dédiée avec des créneaux bien définis, des vendeurs certifiés. Le tout premier live shopping a réuni 7000 personnes en dépit de quelques soucis.
C'est pas les audiences télé non plus.
En dépit de quelques soucis techniques en plus. Une vente de cartes Pokémon rares. Les cartes à collectionner, c'est l'un des principaux marchés, tout comme les produits de luxe ou de marque. La prochaine vente disponible, c'est dans 1h30, Jérôme, un déstockage de bijoux.
Je vois que vous suivez tout cela avec beaucoup d'attention.
Oui,
merci de Xavier Demany, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Donc avec du vent dans le sud, on va vous détailler tout cela. Puis à partir de 13h30, l'Ukraine et son énergie. Coupure de courant, de chauffage qui se multiplie ces derniers jours. Un système énergétique au bord de l'effondrement alors que les températures plongent. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, une nouvelle vie, celle de Guy Lingrange, chercheur agronome, devenu éleveur laitier dans le Beaujolais. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Cécilia Arbonnat, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous emmenez dans le Jura.
Un photographe de Lons-le-Saunier fait défiler les commerçants dans son studio. Il prépare une expo pour l'été prochain sur ces acteurs essentiels des cœurs de ville.
Et avec vous Frédéric, une championne olympique, la boxeuse Estelle Mosley.
Et c'est un titre de son amie, la chanteuse Zao, qu'elle a souhaité que l'on écoute, Oh Mama, sorti en 2023 sur son album Résilience. Il est d'ailleurs question de résilience dans cette chanson. Et c'est pour cette raison qu'Estelle Mosley l'aime autant.
Tout cela à quelques jours du début des Jeux d'hiver. Cela, merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Romane Monnier a disparu. D'elle, il ne reste qu'un téléphone portable. Des notes, des messages, des souvenirs, des enregistrements. Autant de traces confiées à un inconnu, un samedi soir dans un bar.
Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan, un roman sensible et captivant qui nous plonge dans une époque où, de plus en plus, la vérité nous échappe. Je suis Romane Monnier, le roman événement de Delphine de Vigan, aux éditions Gallimard.
Chantal Latsou, chef de la brigade d'intervention Akena, que se passe-t-il, monsieur?
Je voulais m'équiper d'une pergola, et on m'a clairement dit de m'adresser à vous, parce que...
Hop, 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 j'ai compris, vous avez bien fait de m'appeler aujourd'hui, parce qu'après, ça aurait été trop tard. Les vérandas, les pergolas, les carports, c'est maintenant sur Akena.com.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas!
Livre Inter 2026. Amoureux des livres? Écrivez-nous. Tentez de devenir juré du Livre Inter sous la présidence de Laurent Mauvignier.
J'ai envie de leur dire, surtout n'essayez pas de faire bien, faites-vous plaisir. Dites ce que vous n'avez jamais dit, même à votre meilleur ami. Cette lettre, c'est à vous-même que vous devez l'adresser.
Pour nous écrire, sur notre site franceinter.fr ou par courrier à France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris CEDEX 16. Vous avez jusqu'au 16 mars inclus.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme, bonjour
et
à tous.
Et toujours de la pluie.
Oui, elle continue de circuler, ces pluies notamment de la Normandie au centre-Val de Loire ainsi que sur la région PACA. L'anticyclone des Açores restant à distance, il laisse le champ libre aux intempéries. Résultat, eh bien les pluies persistent aussi de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, sur le Languedoc et les crêtes pyrénéennes, en se renforçant en fin de journée, en particulier sur les Cévennes. Une pluie qui se transforme en neige à partir de 1800 mètres. Sous les intempéries, le vent souffle aussi par rafales de 70 à 90 km par heure. En revanche, le temps reste sec, mais nuageux, des Hauts-de-France au Grand Est jusqu'au nord de Rhône-Alpes, comme sur l'île de Beauté.
Pas de changement pour les températures et elles restent douces.
Exactement, partout 2 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Il fait 5 à 9 degrés de l'Alsace aux Hauts-de-France, entre 9 et 14 partout ailleurs, et toujours des petites pointes à 16-18 degrés au pied des Pyrénées, comme sur le littoral de la Corse. Il fait 9 degrés à Cherbourg, 10 à Paris, 12 à Cognac et Besançon, 14 à Agen.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. 13-14, Jérôme Cadet.
Nous sommes au cœur de l'hiver et 4 ans après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, les Ukrainiens vivent une crise énergétique inédite. J'en veux pour preuve la coupure du réseau électrique samedi avec une défaillance inédite depuis 4 ans qui a touché notamment le métro de Kiev qui a dû être mis à l'arrêt et pour la première fois depuis le début de la guerre durant de longues heures. J'en veux pour preuve également les coupures dans la capitale Kiev et jusqu'à la moitié des immeubles de la ville privés de chauffage. Voilà pourquoi les autorités ont il y a quelques jours demandé à ceux qui le pouvaient de quitter la ville. Tout cela alors que les températures ont plongé moins 10, moins 15, moins 20 jusqu'à moins 24 degrés annoncés ce matin à Kiev. On va tenter de comprendre quelle est la situation sur place et comment est-ce qu'on peut aider les Ukrainiens à faire face à cet épisode qui est évidemment la conséquence des incessants bombardements russes, même si Vladimir Poutine a annoncé une trêve dans les prochains jours après un appel du président américain Donald Trump. 01 45 24 7000 pour vos questions. Pour être avec nous, vous passez également via l'application et le site de Radio France. C'est l'onglet Réagir. Nous sommes en ligne avec François Grunewald. Bonjour.
Bonjour.
Président du comité d'aide médicale Ukraine, vous intervenez en direct de Kiev. Vous nous direz ce que vous y faites dans un instant. Nous sommes également en ligne avec Hervé Gouillet. Bonjour.
Bonjour.
Président de l'association Électriciens sans frontières, vous êtes intervenu vous aussi ces dernières semaines, ces derniers mois pour aider les Ukrainiens à faire face et pour aider leur système énergétique à tenir. François Grunewald, vous êtes arrivé à Kiev. Je voudrais savoir quelle est la situation sur place, comment les Ukrainiens s'en sortent avec toute une partie des immeubles de la ville qui n'ont plus d'électricité.
Je suis rentré hier de Kiev dans la nuit, après un long tour dans le nord, Chomska, Soumy et Kharkiv. Et l'électricité était en train de revenir dans certains quartiers de Kiev prioritaires, mais pas partout. Il y avait toute la banlieue était encore noire. Et le froid ce matin, évidemment, est très dur. Donc, en fait, il y a trois éléments dans la réponse des Ukrainiens. Il y a un élément, moi, ce que je dirais, de résistance. C'est-à-dire, quand même, il y a encore des gens qui dansent la nuit dans les zones froides, avec s'éclairant avec leur téléphone et des torches
qui dansent
et qui font de la musique, qui dansent et qui font de la musique, et c'est incroyable. Il y a cet esprit de résistance face au froid, etc. Donc ça, c'est absolument impressionnant.
Mais c'est des rassemblements, pas dans la rue, dans des salles. Comment ça se passe? Racontez-nous.
Non, dans la rue dehors.
Dans la rue.
C'est impressionnant. Et les gens chantent l'hymne ukrainien, chantent des chansons traditionnelles, en s'éclairant avec leur téléphone, avec des petites lampes, etc. Donc il y a ce volet-là qui est une partie clé de la résistance au froid. Alors après, les gens essayent de s'organiser. Donc une des initiatives qui avait été mise en place dès 2022 par le président Zelensky était ce qu'on appelle les points d'invincibilité, donc des endroits où il y a dans des sous-sols, dans des magasins, parfois à l'entrée d'une station de métro, il y a un générateur, un petit chauffage, des endroits où les gens peuvent se faire du thé chaud, recharger leur téléphone et leurs ordinateurs. Donc voilà, c'est un deuxième point. Et puis après, il y a un travail absolument énorme, incroyable, qui est fait par les services techniques pour essayer de remettre de l'électricité. Et y compris, ils y perdent régulièrement des gens qui sont en train de réparer des lignes et qui se font tuer par des bombardements alors qu'ils essaient de remettre de l'électricité. Donc il y a ça. Alors après, comment les gens s'organisent?
Est-ce qu'ils ont, pardonnez-moi François Grunewald, mais est-ce qu'ils ont quitté la ville? Est-ce qu'une partie d'entre eux ont quitté la ville après l'appel du maire il y a quelques jours?
Très peu. Ouais. Quelques-uns, mais très peu. En fait, les gens sont restés, les gens se sont organisés, les gens il y a eu des tas de mouvements internes à l'intérieur de la ville pour que les gens se regroupent dans des appartements où il peut y avoir plusieurs familles et les gens se serrent les uns contre les autres et se protègent. Mais l'enjeu pour beaucoup était quand même de rester, c'est chez nous. Et je viens de voir un peu la même chose à Kharkiv où j'étais, j'ai passé les derniers jours avant de rentrer cette nuit.
Donc là, c'est dans le nord-est, c'est plus près de la frontière avec la Russie.
30 km de la frontière, ouais. Donc avec les drones qu'on entend passer, les bombardements réguliers. Et là, pareil, un travail incroyable. Les municipalités, par exemple, ont compris que, comme il y avait eu un petit redout, et que ça avait commencé à fondre un petit peu, et comme ils avaient mis aussi du sel, etc., il y avait un risque qu'avec le retour du froid glacial, ça fasse des plaques de glace extrêmement dangereuses. Et qui pouvait éventuellement saturer les services de santé, alors qu'il y a besoin souvent de ces services d'urgence pour les accidents. Alors ils veulent pas que ce soit saturé par des pattes cassées,
des fractures.
Et donc ils ont mis un travail énorme pour déglacée.
Ouais.
Donc, c'est les municipalités qui anticipent qu'un des problèmes de santé qu'ils peuvent avoir avec ces glaces, c'est des gens qui se cassent la figure et qui
ne pas engorger le système de santé avec des fractures quand il y a des blessures évidemment beaucoup plus graves à soigner. Sur les causes, je voudrais qu'on donne la parole à Hervé Gouillet, président d'Électriciens sans frontières. Quel est le problème aujourd'hui? C'est le problème de la production d'électricité dans le pays parce qu'il y a des centrales qui sont touchées et qui peuvent pas produire, ou c'est un problème d'acheminement vers les villes et vers les points qui ont besoin d'énergie, Hervé Gouillet?
Il y a vraiment les deux problèmes. Les bombardements ont ciblé au départ plutôt les lignes basse et moyenne tension avant de se généraliser à partir de l'automne de 2022. Donc c'est à la fois les moyens de production qui ont été touchés. Hein. Avant l'invasion de février 2022, la capacité électrique de l'Ukraine était de 55 gigawatts. Elle est aujourd'hui autour de 10-12 avec à la fois les moyens qui ont été confisqués ou mis en hibernation comme les centrales nucléaires de Zaporizhzhia et tout ce qui a été détruit du barrage de Kavkovka à toutes les centrales thermiques qui ont été abîmées. Et dans le même temps, les bombardements visent aussi tous les nœuds du réseau, les postes de transformation qui sont bombardés et difficiles aussi à réparer. Parce que même si on a pu nous aider les opérateurs ukrainiens à envoyer des pièces détachées, à envoyer du câble, des transfos ou des groupes électrogènes, ça a ses limites. Donc il y a à la fois le réseau qui est très endommagé et les moyens de production. Sans oublier que les centrales de chaleur qui alimentaient les réseaux de chaleur de beaucoup de communes et de municipalités ukrainiennes ont aussi été visées avec un encore plus de difficultés à être réparées et donc un transfert du chauffage par réseau de chaleur vers du chauffage électrique qui nécessite des moyens de production supplémentaires.
Est-ce qu'on peut craindre, Hervé Gouillet, un effondrement complet de ce système énergétique dans les prochaines semaines?
Pas forcément un effondrement complet, puisqu'il y a quand même plein d'initiatives, à la fois le raccordement du réseau ukrainien au réseau européen qui permet à l'Ukraine d'importer de l'électricité, une capacité des opérateurs incroyable à réparer, comme le disait François, pour remettre l'électricité, que ce soit pour remonter les lignes, réparer les transformateurs ou réparer autant que faire se peut les moyens de production. Il y a eu aussi des initiatives pour faire baisser la consommation, par exemple en remplaçant des lampes à filaments par des lampes LED. Voilà, c'est tout ce qui est soulagé, tout ce qui soulage l'équilibre production-consommation est bon à prendre. Et puis aussi l'envoi de groupes électrogènes, à la fois raccordés directement au réseau en aidant les opérateurs, mais aussi des groupes électrogènes et des centrales solaires, puisqu'on a fait les deux, directement en direction des utilisateurs, c'est-à-dire les collectivités, les hôpitaux, les écoles, les stations de pompage, les points d'invincibilité, d'envoyer directement ces matériels ou de faire des réalisations à la fois combinées en des installations solaires, des batteries et des petits groupes électrogènes de secours. Voilà, ça permet de décentraliser la production et d'être au plus près
Moins vulnérable aussi, sans doute. Bernard nous appelle de Rouen. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
C'est ce que vous faites avec votre association, les convois d'Irina, c'est ça Bernard, brièvement?
Oui, c'est tout à fait ça. Je suis membre de cette association. Je n'en suis pas le fondateur ni le créateur, mais elle est proche de Rouen. Et c'est cette association qui a fait venir un soldat ukrainien qui a eu 15 jours de permission pour venir parler des conditions de vie sur le front grâce à cette association, les convois d'Irina, Irina qui veut dire la paix. Et comme ce soldat est venu dans une salle de Rouen, c'est là que j'ai eu connaissance de l'association. Et je vous remercie de me permettre d'en parler. Elle rassemble donc depuis une trentaine de mois les moyens que donnent des donateurs ou des associations, d'autres associations, ou etc. Donc soit du matériel, soit des dons en espèces. Et on trouve des renseignements sur cette association sur Internet en faisant tout simplement les convois d'Irina, Irina, I-R-I-N-A.
Et vous aurez toutes les informations. Merci Bernard de nous avoir appelé de Rouen, association qui a envoyé des générateurs, notamment en Ukraine. François Grunewald, vous qui êtes sur place à Kiev, c'est aussi un type de matériel que vous acheminez en Ukraine en ce moment ?
Oui, on a monté avec le comité d'aide médicale Ukraine une opération qui s'appelle le pont du cœur pour la chaleur et la lumière en Ukraine, donc pour envoyer des générateurs, du matériel de chauffage. On travaille beaucoup à la fois avec le ministère de l'énergie qui coordonne un petit peu tout ça.
Comment ça fonctionne ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent ces générateurs ?
Ah bah c'est des générateurs à diesel ou à essence. Selon les endroits, et qu'on installe en effet soit comme disait Hervé, que je salue puisque j'ai pas mal travaillé avec eux en Ukraine
bien sûr
en 2023, qui s'installe donc dans des hôpitaux, qui s'installe auprès de points de un des gros problèmes par exemple, c'est que avec le froid l'eau gèle dans les canalisations, donc il faut envoyer de l'eau sous pression aux chaudes ou aux froides dans les immeubles. Donc on travaille beaucoup avec les stations de d'eau. On va installer des générateurs, des gros générateurs dans des stations d'eau pour permettre d'injecter de l'eau, à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide, pour que les gens aient accès à l'eau, mais pour faire fonctionner le chauffage, et surtout pour que ça gèle pas et que les canalisations n'explosent pas, comme ça se fait, j'en ai vu une ce matin, quand il fait moins 20 degrés, ça casse assez vite. Donc on fait ça, donc on a lancé ce pont du cœur pour la chaleur et la lumière en Ukraine. Et on a tout un réseau, on travaille beaucoup avec une ONG ukrainienne qui est notre partenaire principal, le comité d'aide médicale de Zakarpattie, donc qui est basé à Ouzhgorod, qui a tout un réseau d'acteurs locaux, d'ONG locales, et qui travaille beaucoup avec les municipalités ukrainiennes pour qu'on puisse assigner nos générateurs aux endroits où les gens ont le plus besoin. Donc ça c'est un premier point. Alors après, dans les autres discussions qu'on a avec les Ukrainiens sur ces questions d'énergie, c'est évidemment, comme Hervé l'a dit, il faut disséminer, il faut protéger aussi les générateurs. Donc c'est une des nouvelles stratégies du ministère, que ça soit chaque fois bien protégé par
les dissimulés, les avions,
les dissimulés, pour qu'ils soient moins fragiles. Et puis après, tout l'enjeu que les Ukrainiens ont quand même dans leur tête, c'est on est face à un enjeu de changement majeur sur le réseau qu'il faudra mettre en place pour qu'il soit plus décentralisé, plus vert, plus adapté aux standards européens. Et là, il y a besoin donc de cette aide d'urgence maintenant. Mais les Ukrainiens ont aussi la tête dans le futur. Ils disent mais il faudra qu'on sorte de cette approche, parce que les générateurs, évidemment, ça fait beaucoup de bruit, ça pollue beaucoup, et qu'il faudra arriver à trouver assez vite des solutions pour,
moins polluant,
une fois passé cette crise horrible, passer sur des systèmes moins polluants. Alors,
dernière question, vraiment, il nous reste quelques secondes, et je voudrais qu'on réponde à Christine qui nous demande, département de l'Isère. Christine nous dit, est-ce qu'il y a des collectes organisées en France de vêtements chauds ? Est-ce que des vêtements chauds, c'est un sujet pour les Ukrainiens, François Grunewald, vous qui êtes sur place ?
Alors, oui, mais en petite quantité, parce qu'ils sont tellement... D'abord, c'est un pays qui a l'habitude de ça, et c'est donc là où il y en a besoin, c'est quand il y a besoin d'accueillir des gens immédiatement après des bombardements d'immeubles ou des gens qui sont évacués. Et donc c'est des toutes petites quantités.
Ouais, en urgence. Contre, merci infiniment. Je suis désolé, François Grunewald.
Des couvertures peut-être.
Merci François Grunewald. Je suis désolé, le temps qui nous était imparti est écoulé. Président du Comité Aide Médicale Ukraine, vous retenez bien le nom de l'association, Comité Aide Médicale Ukraine. Je salue également Hervé Gouillet, président des Électriciens sans frontières, vous l'avez compris, c'était urgent et très important de parler de cette situation à Kiev aujourd'hui, 13h47 sur Inter. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton et nous vous racontons cette semaine un changement de vie. Guylain Grange était chercheur en agronomie et il a repris il y a 2 ans la ferme de son père, celle où il a grandi. Il est donc devenu éleveur laitier. Nous sommes à Frontenat, dans le Rhône. Et comme pour tous les éleveurs, la journée commence par la traite.
C'est le fameux zip. Je pense que c'est un des premiers bruits de pas mal d'éleveurs et d'éleveuses.
Et on fait la cote, le bleu de travail. Donc. Première étape, se lever, boire un grand verre d'eau. Réveil 6h05, 6h10 on s'habille, 6h15 on est sur le pont. Pas de bouchon, c'est pas mal. Et ben on va aller dire bonjour aux vaches. Et après on va attaquer la traite. Bonjour, je m'appelle Guy Lingrange, j'ai 34 ans et je suis éleveur depuis maintenant 3 ans. Ici, on est à Frontenat, dans le Beaujolais.
Elles connaissent l'heure. Ouais, elles aiment bien la régularité et c'est pour ça que notamment quand il y a des changements d'heure, on décale petit à petit. Je devrais pas le dire parce que c'est un peu la honte pour un éleveur, mais ça m'est arrivé une fois de pas entendre mon réveil. Et ben, j'ai pas pu faire de grasse mat non plus parce qu'un quart d'heure après... Il y en a qui me serinaient que c'était l'heure de la traite. Ça commençait à meugler fort.
Allez, debout.
Il y en a qui sont plus du matin que d'autres.
Allez.
Il y en a toujours qui se débrouillent pour être toujours la dernière à rentrer dans la salle de traite. Là, on est devant le boîtier de la machine à traire.
C'est parti. En fait, c'est une pompe à air, donc c'est comme un aspirateur pour, en quelque sorte, aspirer le lait. Allez, viens. Allez, filles. Encore deux. Et de quatre, le compte est bon. Quatre de chaque côté. Du coup, il faut être ambidex. Quand on traîne les vaches de droite, c'est avec la main droite. Et quand on traîne les vaches de gauche, c'est avec la main gauche. Nous, c'est une période où ça fait plutôt beaucoup de lait parce qu'on a les vaches mettent bas à l'automne. Donc là, elles sont en pleine production. On fait presque 500 litres le matin avec 35 vaches. Donc, elles sont en forme cet hiver. Elles ont des bons fourrages, donc ça fait beaucoup de lait. Voilà, la traite est finie, le lait refroidit, et maintenant on va pouvoir les donner à manger aux vaches. Après la traite, c'est du foin. Et autour de 8h30, en général, on a mis le foin aux vaches, pendant que tout le monde mange. Nous aussi, on va casser la croûte. L'avantage, c'est que du coup, j'habite sur place, et avec mon associé, on a chacun notre maison de part et d'autre de la ferme. On a une entrée des artistes pour quitter nos bottes, parce qu'on arrive des fois un peu crotté. Du coup, il y a ma compagne, il y a sa famille qui est de passage. On rentre, ça sent le café.
Et moi, c'est l'éternel lait chaud. Je revendique d'être le premier consommateur de la ferme.
Quand on s'est rencontrés, que j'ai raconté à mes proches que j'étais avec un agriculteur, ça a fait rire tout le monde, parce que moi, qui étais nomade pendant très longtemps, de rencontrer quelqu'un qui est pour le coup hyper sédentaire, ça fait beaucoup rire tout le monde. Moi, je m'appelle Mélia, du coup, j'habite au Gaec des Chartreux avec Guilin. Ça fait à peu près un peu plus d'un an que je suis dans la maison. Moi, je serais incapable de faire ça, non, c'est sûr. Alors, moi, j'aurais déjà explosé depuis longtemps, mais je trouve ça extrêmement beau et motivant.
J'ai grandi sur cette ferme et j'ai eu envie de voir du pays pour mes études. Et jusqu'à mes 32 ans, j'avais tout à fait la possibilité de faire autre chose. Et un jour, je me suis dit, ça y est, je suis prêt, je reprends la ferme. Je reviens aux sources.
Une semaine dans le Beaujolais, reportage Rémi Brancato, réalisation Vincent Godard, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi 13h51, Cécilia Arbonnat nous parle d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui, Cécilia, nous sommes à Lons-le-Saunier, dans le Jura, où les commerçants défilent chez le photographe.
Pour se faire tirer le portrait, et on peut se demander, Jérôme, quel est le point commun entre un poulet, une chaussure et un ordinateur.
Ce sont sans doute les commerçants qui les vendent qui ont un point commun.
Bingo, Katia la bouchère est venue avec une volaille de son étal. Laurence, la gérante de la maroquinerie, pose avec une botte à talons qu'elle a enfilée sur son bras comme un gant. Et Dominique Joseph, lui, a apporté un PC portable Olivetti de 1987. J'ai choisi cet ordinateur italien, nous raconte-t-il, car il fait partie de mon histoire. Il est président de la Fédération Lédonienne du Commerce, qui regroupe une centaine de boutiques au centre-ville. Et il dit, bien sûr qu'on a vu des commerçants baisser le rideau et ne pas revenir. C'est triste, un local qui ferme. Steve Gaillard est d'accord. Il tient un magasin multimédia de seconde main et un atelier de réparation. C'est important, nous dit-il, d'encourager ces commerçants par ce genre d'initiative positive. Steve va aller chez le photographe dans quelques jours avec sa femme Laura. Le couple réfléchit à l'accessoire qui va figurer sur la photo. La patronne du bar de nuit, la Chapelle 15, elle n'a pas hésité. C'est avec une image pieuse, une illustration de Jésus, qu'elle est entrée au numéro 20 de la rue Perrin.
20 de la rue Perrin, c'est le studio photo de Pascal Regaldi. C'est lui qui a imaginé cette expo de commerçants.
Oui, c'est un passionné d'images. Il a eu son premier appareil photo à l'âge de 8 ans. C'était un Kodak Instamatic, se souvient Pascal Regaldi. Quand je manquais de lumière, je clipsais un cube flash sur le dessus de mon boîtier. Mmh. Et il déroule son parcours de vie. Je m'intéresse aux gens de la rue depuis longtemps, aux visages que je croise près de chez moi ou pendant mes voyages en Sicile ou à Cuba. Partout, il faut mettre le sujet en confiance. Avant de prendre la photo, j'ai dû rassurer le boulanger et la fromagère. Certains commerçants posent en tenue de travail avec un tablier ou une veste polaire. D'autres sont endimanchés.
Et tous ces portraits seront proposés en noir et blanc.
Oui, histoire de donner la même identité visuelle à l'exposition. Le noir et blanc, nous dit Pascal Regaldi, ça gomme les codes publicitaires et les différences sociales. Ces portraits seront affichés sur de grands panneaux l'été prochain, place de la Liberté. Lons-le-Saunier va déclarer sa flamme aux artisans, à leur savoir-faire et à deux boutiques emblématiques, la chocolaterie Pelant et la mercerie Aubry qui trône en majesté depuis 117 ans. Devinez où ? Rue du Commerce.
Rue du Commerce, bien évidemment. Merci Cécilia Arbona. Tous les lundis dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson à quelques jours du début des Jeux d'hiver de Milan Cortina. Parole toute cette semaine avec Frédéric Pommier à des médaillés olympiques. Et l'on commence avec Estelle Mosley, boxeuse, médaillée d'or aux Jeux de Rio. C'était il y a 10 ans, 2016.
Et c'est un titre de son amie, la chanteuse Zao, qu'elle a souhaité que l'on écoute, Oh Mama, sorti en 2023 sur son album Résilience. Il est d'ailleurs question de résilience dans cette chanson, et c'est pour cette raison qu'Estelle Mosley l'aime autant.
J'ai choisi cette chanson parce que dans les paroles, il y a beaucoup de choses qui correspondent à ce que j'ai vécu ces dernières années. Voilà, la résilience, le fait de ne pas s'écraser sur nos difficultés et d'aller de l'avant. C'est quelque chose qui m'a rythmé là pendant plusieurs années. J'ai toujours cette capacité à me servir de mes difficultés comme des facteurs supplémentaires pour performer. Ça nous atteint toujours, des difficultés. Mais moi, en général, passer 2-3 jours, j'ai cette capacité à rebondir.
Oh mama, je ne vois que toi. J'ai perdu le sens de la fête. Oh mama, je n'entends que toi. Me répéter sans cesse. Je suis dans le mal, je suis dans le manque, je suis dans les non-dits. Je suis dans mes failles, je suis dans mes bails, mais je rebondis. Je perds les pédales, je parle à mon âme, j'attends le déclic. J'attends la chute de mon biopic, comme dans Netflix. Joindre les deux bouts, encaisser les coups.
Là, vous parlez à la fois de difficultés professionnelles et familiales.
Complètement, ça peut être des difficultés professionnelles, ça peut être des difficultés familiales. Une compétition qui s'est pas bien passée ou des histoires de vie qui se finissent pas forcément bien. C'est tout ça, mais quoi qu'il arrive, pour chaque difficulté, voilà, j'ai établi comme un process dans ma tête qui fait que on essaye de perdre le moins possible de temps là-dessus et de s'en servir comme leçon ou comme trampoline. Voilà, ça nous atteint pas, on rebondit dessus et au contraire, on tire de la force parce qu'on en vaut la peine, quoi.
Je suis dans ma peine, je suis dans les flammes quand je me sens triste. Je suis mélomane, mélancolique quand je suis artiste. Je suis dans la gamme, je suis dans le game, je suis dans ta playlist. Je suis dans le calme et je suis en paix quand je vois mon fils. Oh maman, sois fière, ton fils est docteur. Toi qui t'es battu contre le cancer. Oh papa, sois fier, notre vie est meilleure. Tu t'es sacrifié, laissons tout derrière. Même si on n'a pas grandi dans des draps de soie. Résilience, c'est choisir quand on n'a pas le choix. C'est quand t'es plus bas que terre, atteindre le sommet.
Dans cette chanson, elle parle clairement de sa mère, Zao.
Complètement.
Vous, c'est une personne très importante aussi.
Complètement. Ma maman est une personne très importante. Mes parents sont des personnes très importantes pour moi parce qu'ils ont connu leurs difficultés. eux aussi. Et pourtant, à aucun moment, ils ont flanché. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils avaient envie, voilà, d'être là pour leurs enfants, de leur donner à manger, de les voir évoluer de la meilleure des façons possibles. Donc pour moi, les parents, c'est la base. Et c'est ce qui me permet de penser comme je pense aujourd'hui et d'évoluer comme j'évolue aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils sont toujours là au quotidien. Ils étaient là avant, ils sont là maintenant et ils seront là encore longtemps.
Cette médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2016, elle a bouleversé votre vie. Est-ce qu'elle a bouleversé aussi la vie de vos parents?
Oui, je pense que ça a été une immense fierté pour eux, déjà, de voir que j'avais réussi cet exploit de devenir championne olympique pour eux. Quand j'ai commencé la boxe à 12 ans, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ça. Et puis, ils m'ont vu aussi côtoyer des personnes très importantes. Hein. Je reçois ma Légion d'honneur peu de temps après ma médaille olympique. Ils sont reçus à l'Élysée aussi. Et finalement, je pense aussi qu'il y a cette satisfaction de dire que bah, ils ont bien bossé, quelque part. Oh, mama, je ne vois que toi. Rien de tel qu'une musique qui nous parle pour se recentrer et ne pas oublier pourquoi on est là.
C'est ça l'effet qu'elle a sur vous, cette chanson-là?
Ouais, complètement.
Elle vous rappelle qui vous êtes un peu?
Exactement, elle me rappelle un peu qui je suis et pourquoi je suis là.
Zao, oh mama, demandé par la boxeuse Estelle Mosley que nous réécoutions. Grâce à vous, Frédéric Pommier, la suite de cette série demain.